Armance, suite 7. Chapitre 24. Le bruit des domestiques logés dans les mansardes pouvant incommoder Octave, Madame de Bonnivet les établit dans la maison d'un paysan voisin. C'était dans ces sortes d'égards matériels, pour ainsi dire, que triomphait le génie de la marquise. Elle y portait une grâce parfaite et savait fort adroitement employer sa fortune à étendre la réputation de son esprit. Le fond de sa société était composé de ces gens qui, pendant 40 ans, n'ont jamais fait que ce qui est de la convenance la plus exacte, de ces gens qui font la mode et ensuite s'en étonnent. Ils déclarèrent que Madame de Bonnivet, s'imposant le sacrifice de ne pas aller dans ses terres et de passer l'automne à Andilly pour faire compagnie à son amie intime Madame de Malivert, il était de devoir étroit pour tous les cœurs sensibles de venir partager sa solitude. Elle fut telle, cette solitude, que la marquise fut obligée de prendre des chambres dans le petit village à mi-côte, pour loger ses amis qui accouraient en foule. Elle y faisait mettre des papiers et des lits. Bientôt la moitié du village fut embellie par ses ordres et occupée. On se disputait les logements, on lui écrivait de tous les châteaux des environs de Paris pour solliciter une chambre. Il devint convenable de venir tenir compagnie à cette admirable marquise qui soignait cette pauvre Madame de Malivert. Et Andilly fut brillant pendant le mois de septembre comme un village d'eau. Il fut question de cette mode même à la cour. « Si nous avions 20 femmes d'esprit comme Madame de Bonnivet, dit quelqu'un, on pourrait risquer d'aller habiter Versailles. » Et le cordon bleu de Monsieur de Bonnivet parut assuré. Jamais Octave n'avait été aussi heureux. La duchesse d'Ancre trouvait ce bonheur bien naturel. « Octave, disait-elle, peut se croire en quelque sorte le centre de tout ce mouvement d'Andilly. Le matin, chacun envoie chercher des nouvelles de sa santé. Quoi de plus flatteur à son âge? Ce petit homme est bien heureux, ajoutait la duchesse. Il va être connu de tout Paris, et son impertinence en sera augmentée de moitié. » Ce n'était pas là précisément la cause du bonheur d'Octave. Il voyait parfaitement heureuse cette mère chérie à laquelle il venait de causer tant d'inquiétude. Elle jouissait de la manière brillante dont son fils débutait dans le monde. Depuis ses succès, elle commençait à ne plus se dissimuler que son genre de mérite avait trop de singularité et se trouvait trop peu copié des mérites connus, pour ne pas avoir besoin d'être soutenue par la toute-puissante influence de la mode. Privé de ce secours, il eût passé inaperçu. Un des grands bonheurs de Madame de Malivert, à cette époque, fut un entretien qu'elle eut avec le fameux prince de R, qui vint passer 24 heures au château d'Andilly. Ce courtisan si délié et dont les aperçus faisaient loi dans le monde eut l'air de remarquer Octave. « Avez-vous observé comme moi, madame, dit-il à Madame de Malivert, que monsieur votre fils ne dit jamais un mot de cet esprit appris qui est le ridicule de notre âge. Il dédaigne de se présenter dans un salon avec sa mémoire, et son esprit dépend des sentiments qu'on fait naître chez lui. C'est pourquoi les sots en sont quelquefois si mécontents, et leur suffrage lui manquait. Quand on intéresse le comte de Malivert, son esprit paraît jaillir tout à coup de son cœur ou de son caractère, et ce caractère me semble des plus grands. Ne pensez-vous pas, madame, que le caractère est un organe usé chez les hommes de notre siècle? Monsieur votre fils me semble appelé à jouer un rôle singulier. Il aura justement le mérite le plus rare parmi ses contemporains. C'est l'homme le plus substantiel et le plus clairement substantiel que je connaisse. Je voudrais qu'il parvînt de bonne heure à la pairie ou que vous le fissiez maître des requêtes. Mais, reprit madame de Malivert, respirant à peine du plaisir que lui faisait le suffrage d'un si bon juge. Le succès d'Octave n'est rien moins que général.
C'est un avantage de plus, reprit en souriant monsieur de R. Il faudra peut-être 3 ou 4 ans au nigaud de ce pays-ci pour comprendre Octave, et vous pourrez, avant l'apparition de l'envie, le pousser tout près de sa place. Je ne vous demande qu'une chose. Empêchez, monsieur, votre fils d'imprimer. Il a trop de naissance pour cela.
Le vicomte de Malivert avait bien des progrès à faire avant d'être digne du brillant horoscope qu'on traçait pour lui. Il avait à vaincre bien des préjugés. Son dégoût pour les hommes était profondément enraciné dans son âme. Heureux, il lui inspirait de l'éloignement. Malheureux, leur vue ne lui en était que plus à charge. Il n'avait pu que rarement essayer de se guérir de ce dégoût par la bienfaisance. S'il y fut parvenu, une ambition sans bornes l'eût précipité au milieu des hommes et dans les lieux où la gloire s'achète par les plus grands sacrifices. À l'époque où nous sommes parvenus, Octave était loin de se promettre des destinées brillantes. Madame de Malivert avait eu le bon esprit de ne pas lui parler de l'avenir singulier que lui prédisait monsieur le prince de R. Ce n'était qu'avec Armance qu'elle osait se livrer au bonheur de discuter cette prédiction. Armance avait l'art suprême d'éloigner de l'esprit d'Octave tous les chagrins que lui donnait le monde. Maintenant qu'il osait les lui avouer, elle était de plus en plus étonnée de ce singulier caractère. Il y avait encore des journées où il tirait les conséquences les plus noires des propos les plus indifférents. On parlait beaucoup de lui à Andilly. « Vous éprouvez la conséquence immédiate de la célébrité, » lui disait Armance. « On dit beaucoup de sottises sur votre compte. Voulez-vous qu'un sot, par cela seul qu'il a l'honneur de parler de vous, trouve des choses d'esprit ?» L'épreuve était singulière pour un homme ombrageux. Armance exigea qu'il lui fît une confidence entière et prompte de tous les mots offensants pour lui qu'il pourrait surprendre dans la société. Elle lui prouvait facilement qu'on n'avait pas songé à lui en les disant, ou qu'il ne présentait que ce degré de malveillance que tout le monde a avec tout le monde. L'amour-propre d'Octave n'avait plus de secret pour Armance, et ses deux jeunes cœurs étaient arrivés à cette confiance sans bornes qui fait peut-être le plus doux charme de l'amour. Ils ne pouvaient parler de rien au monde sans comparer secrètement le charme de leur confiance actuelle avec l'état de contrainte où ils se trouvaient quelques mois auparavant en parlant des mêmes choses. Et cette contrainte elle-même, dont le souvenir était si vif, et malgré laquelle ils étaient déjà si heureux à cette époque, était une preuve de l'ancienneté et de la vivacité de leur amitié. Le lendemain, en arrivant à Andilly, Octave n'était pas sans quelque espoir qu'Armance y viendrait. Il se dit malade et ne sortit pas du château. Peu de jours après, Armance arriva, en effet, avec madame de Bonnivet. Octave arrangea sa première sortie de manière qu'elle pût avoir lieu précisément à 7 heures du matin. Armance le rencontra dans le jardin, et il la conduisit auprès d'un oranger placé sous les fenêtres de sa mère. Là, quelques mois auparavant, Armance, le cœur navré par les paroles étranges qu'il lui adressait, était tombée dans un évanouissement d'un moment. Elle reconnut cet arbre, elle sourit et s'appuya contre la caisse de l'oranger en fermant les yeux. À la pâleur près, elle était presque aussi belle que le jour où elle se trouva mal par amour pour lui. Octave sentit vivement la différence de position. Il reconnut cette petite croix de diamant qu'Armance avait reçue de Russie et qui était un vœu de sa mère. Elle était cachée ordinairement. Elle parut par le mouvement que fit Armance. Octave eut un moment d'égarement. Il prit sa main comme le jour où elle s'était évanouie et ses lèvres osèrent effleurer sa joue. Armance se releva vivement et rougit beaucoup. Elle se reprocha amèrement ce badinage. « Voulez-vous me déplaire ? » lui dit-elle. «
Voulez-vous me forcer à ne sortir qu'avec une femme de chambre ?» Une brouillerie de quelques jours fut la suite de l'indiscrétion d'Octave. Mais entre deux êtres qui avaient l'un pour l'autre un attachement parfait, les sujets de querelle étaient rares. Quelques démarches qu'Octave eut à faire, avant de songer si elle lui serait agréable à lui-même, il cherchait à deviner si Armance pourrait y voir une nouvelle preuve de son dévouement. Le soir, quand ils étaient aux deux extrémités opposées de l'immense salon, où Madame de Bonnivet réunissait ce qu'il y avait alors de plus remarquable et de plus influent à Paris, si Octave avait à répondre à une question, il se servait de tels mots qu'Armance venait d'employer, et elle voyait que le plaisir de répéter ce mot lui faisait oublier l'intérêt qu'il pouvait prendre à ce qu'il disait. Sans projet, il s'établissait ainsi pour eux au milieu de la société la plus agréable et la plus animée, non pas une conversation particulière, mais comme une sorte d'écho qui, sans rien exprimer bien distinctement, semblait parler d'amitié parfaite et de sympathie sans bornes. Oserons-nous accuser d'un peu de sécheresse l'extrême politesse que le moment présent croit avoir héritée de cet heureux XVIIIe siècle où il n'y avait rien à haïr? En présence de cette civilisation si avancée, qui, pour chaque action, si indifférente qu'elle soit, se charge de vous fournir un modèle qu'il faut suivre, ou du moins auquel il faut faire son procès, ce sentiment de dévouement sincère et sans bornes est bien près de donner le bonheur parfait. Armance ne se trouvait jamais seule avec son cousin qu'à la promenade au jardin, sous les fenêtres du château dont on habitait le rez-de-chaussée, ou dans la chambre de Madame de Malivert, et en sa présence. Mais cette chambre était fort grande, et souvent la faible santé de Madame de Malivert lui faisait un besoin de quelques instants de repos. Elle engageait alors ses enfants, c'était le nom qu'elle leur donnait toujours, à aller se placer dans l'embrasure de la croisée qui donnait sur le jardin, afin de ne pas l'empêcher de reposer par le bruit de leurs paroles. Cette manière de vivre, tranquille et toute d'intimité du matin, était remplacée le soir par la vie du plus grand nombre. Outre la société habitant au village, beaucoup de voitures arrivaient de Paris et y retournaient après souper. Ces jours sans nuages passèrent rapidement. Ces cœurs bien jeunes encore étaient loin de se dire qu'ils jouissaient d'un des bonheurs les plus rares que l'on puisse rencontrer ici-bas. Ils croyaient au contraire avoir encore bien des choses à désirer. Sans expérience, ils ne voyaient pas que ces moments fortunés ne pouvaient être que de bien courte durée. Tout au plus, ce bonheur tout de sentiment, et auquel la vanité et l'ambition ne fournissaient rien, eût-il pu subsister au sein de quelques familles pauvres et ne voyant personne. Mais ils vivaient dans le grand monde, ils n'avaient que 20 ans, ils passaient leur vie ensemble, et pour comble d'imprudence, on pouvait deviner qu'ils étaient heureux. Et ils avaient l'air de fort peu songer à la société. Elle devait se venger. Armance ne songeait point à ce péril. Elle n'était troublée de temps en temps que par la nécessité de se faire de nouveau le serment de ne jamais accepter la main de son cousin, quoi qu'il pût arriver. Madame de Malivert, de son côté, était fort tranquille. Elle ne doutait pas que la manière de vivre actuelle de son fils ne préparât un événement qu'elle souhaitait avec passion. Malgré les jours heureux dont Armance remplissait la vie d'Octave, en son absence, il avait des moments plus sombres où il rêvait à sa destinée, et il arriva à ce raisonnement. « L'illusion la plus favorable pour moi règne dans le cœur d'Armance. Je pourrais lui avouer les choses les plus étranges sur mon compte, et loin de me mépriser, ou de me prendre en horreur, elle me plaindrait. » Octave dit à son ami que dans sa jeunesse, il avait eu la passion de voler. Armance fut atterrée des détails affreux dans lesquels l'imagination d'Octave se plut à entrer sur les suites funestes de cette étrange faiblesse. Cet aveu bouleversa son existence. Elle tomba dans une profonde rêverie dont on lui fit la guerre. Mais à peine 8 jours s'étaient écoulés depuis cette étrange confidence qu'elle plaignait Octave et était, s'il se peut, plus douce envers lui. « Il a besoin de mes consolations, se disait-elle, pour se pardonner à lui-même. » Octave, assuré par cette expérience du dévouement sans bornes de ce qu'il aimait, et n'ayant plus à dissimuler de sombres pensées, devint bien plus aimable dans le monde. Avant l'aveu de son amour, amené par le voisinage de la mort, c'était un jeune homme fort spirituel et très remarquable, plutôt qu'aimable. Il plaisait surtout aux personnes tristes. Elles croyaient voir en lui, tous les jours, un homme appelé à faire de grandes choses. L'idée du devoir paraissait trop dans sa manière d'être et allait quelquefois jusqu'à lui donner une physionomie anglaise. Sa misanthropie passait pour de la hauteur et de l'humeur auprès de la partie âgée de la société et fuyait sa conquête. S'il eût été père à cette époque, on lui eût fait une réputation. C'est l'école du malheur qui manque souvent au mérite des jeunes gens faits pour être les plus aimables un jour. Octave venait d'être façonné par les leçons de ce maître terrible. On peut dire qu'à l'époque dont nous parlons, rien ne manquait à la beauté du jeune vicomte et à l'existence brillante dont il jouissait dans le monde. Il y était prôné comme à l'envi par mesdames d'Aumale et de Bonnivet et par les gens âgés. Madame d'Aumale avait raison de dire que c'était l'homme le plus séduisant qu'elle eût jamais rencontré, car il n'ennuie jamais, disait-elle étourdiment. Avant de le voir, je n'avais pas même rêvé ce genre de mérite, et le principal est d'être amusé. Et moi, se disait Armance en entendant ce propos naïf, je refuse à cet homme, si bien accueilli ailleurs, la permission de me serrer la main. « C'est un devoir, » ajoutait-elle en soupirant, « et jamais je n'y manquerai. » Il y eut des soirées où Octave se livra au suprême bonheur de ne pas parler et de voir Armance agir sous ses yeux. Ces moments ne furent perdus ni pour madame d'Aumale, piquée de ce qu'on négligeait de l'amuser, ni pour Armance, ravie de voir l'homme qu'elle adorait s'occuper d'elle uniquement. La promotion dans l'ordre du Saint-Esprit paraissait retardée. Il fut question du départ de madame de Bonnivet pour le vieux château situé au fond du Poitou qui donnait son nom à la famille. Un nouveau personnage devait être du voyage. C'était monsieur le chevalier de Bonnivet, le plus jeune des fils que le marquis avait eu d'un premier mariage.
Chapitre 25. Totus mundus stult. Ungarle.
À peu près à l'époque de la blessure d'Octave, un nouveau personnage était arrivé de Saint-Acheul dans la société de la marquise. C'était le chevalier de Bonnivet, troisième fils de son mari. Si l'ancien régime eût encore existé, on l'eût destiné à l'ordre épiscopal, et quoique bien des choses soient changées, une sorte d'habitude de famille avait persuadé à tout le monde et à lui-même qu'il devait appartenir à l'Église. Ce jeune homme, à peine âgé de 20 ans, passait pour fort savant. Il annonçait surtout une sagesse au-dessus de son âge. C'était un être petit, fort pâle, il avait le visage gros, et au total, quelque chose de l'air prêtre. Un soir, on apporta l'étoile. L'unique bande de papier qui forme ce journal se trouvait mal posée. Il était évident que le portier l'avait lu. « Et ce journal aussi ?» s'écria involontairement le chevalier de Bonnivet. « Pour faire la plate économie d'une seconde bande de papier gris qui couperait l'autre en forme de croix, il ne craint pas de courir la chance que le peuple le lise, comme si le peuple était fait pour lire, comme si le peuple pouvait distinguer le bon du mauvais. Que faut-il attendre des journaux jacobins quand on voit les feuilles monarchiques se conduire ainsi ?» Ce mouvement d'éloquence involontaire fit beaucoup d'honneur au chevalier. Il lui concilia sur le champ les gens âgés et tout ce qui, dans la société d'Andilly, avait plus de prétention que d'esprit. Le silencieux baron de Rissé, dont le lecteur se souvient à peine, se leva gravement et vint embrasser le chevalier sans mot dire. Cette action mit pendant quelques minutes de la solennité dans le salon et amusa madame d'Aumale. Elle appela le chevalier, chercha à le faire parler et le prit en quelque sorte sous sa protection. Toutes les jeunes femmes suivirent ce mouvement. On fit du chevalier une sorte de rival pour Octave, qui alors était blessé et retenu chez lui à Paris. Mais bientôt, on éprouvait auprès du chevalier de Bonnivet, quoique si jeune, une sorte de repoussement. On sentait en lui une singulière absence de sympathie pour tout ce qui nous intéresse. Ce jeune homme avait un avenir à part. On devinait en lui quelque chose de profondément perfide pour tout ce qui existe. Le lendemain du jour où il avait brillé aux dépens de l'étoile, le chevalier de Bonnivet, qui vit madame d'Aumale dès le matin, débuta avec elle à peu près comme Tartuffe lorsqu'il offre un mouchoir à Dorine afin qu'elle couvre des choses que l'on ne saurait voir. Il lui fit une réprimande sérieuse sur je ne sais quel propos léger qu'elle venait de se permettre au sujet d'une procession. La jeune comtesse lui répliqua vivement, l'engagea beaucoup à revenir et fut enchantée de ce ridicule. « C'est absolument comme mon mari, » pensait-elle. « Quel dommage que le pauvre Octave ne soit pas ici. Comme nous ririons !» Le chevalier de Bonnivet était surtout choqué de la sorte d'éclat qui s'attachait au vicomte de Malivert, dont il retrouvait le nom dans toutes les bouches. Octave vint à Andilly et reparut dans le monde. Le chevalier le crut amoureux de madame d'Aumale, et sur cette idée, lui-même forma le projet de prendre une passion pour la jolie comtesse, auprès de laquelle il était fort aimable. La conversation du chevalier était une allusion perpétuelle et fort spirituelle au chef-d'œuvre des grands écrivains et des grands poètes des littératures françaises et latines. Madame d'Aumale, qui savait peu, se faisait expliquer l'allusion et rien ne l'amusait davantage. La mémoire réellement prodigieuse du chevalier le servait bien. Il disait sans hésiter les vers de Racine ou les phrases de Bossuet qu'il avait voulu rappeler et montrait avec clarté et élégance le genre de rapport de l'allusion qu'il avait voulu faire avec le sujet de la conversation. Tout cela avait le charme de la nouveauté aux yeux de madame d'Aumale. Un jour, le chevalier dit « Un seul petit article de la Pandore est fait pour gâter tout le plaisir que donne le pouvoir. » Ceci passa pour très profond. Madame d'Aumale admira beaucoup le chevalier. Mais à peine quelques semaines étaient-elles passées qu'il lui fit peur. « Vous me faites l'effet, lui dit-elle, d'une bête venimeuse que je rencontrerai dans un lieu solitaire au fond des bois. Plus vous avez d'esprit, plus vous avez de pouvoir pour me faire du mal. » Elle lui dit un autre jour qu'elle gagerait qu'il avait deviné tout seul ce grand principe, que la parole a été donnée à l'homme pour cacher sa pensée. Le chevalier avait de grands succès auprès des autres personnes de la société. Par exemple, séparé de son père depuis 8 années qu'il avait passé à Saint-Acheul, à Brigue et en d'autres lieux, souvent ignoré du marquis lui-même, à peine revenu auprès de lui, en moins de 2 mois, il parvint à s'emparer complètement de l'esprit de ce vieillard, l'un des fins courtisans de l'époque. Monsieur de Bonnivet avait toujours craint de voir finir la restauration de France comme celle d'Angleterre, mais depuis 1 an ou 2, la peur en avait fait un véritable avare. On fut donc très étonné dans le monde de lui voir donner 30 000 francs à son fils le chevalier pour contribuer à l'établissement de quelques maisons de jésuites. Tous les soirs, à Andilly, le chevalier faisait la prière en commun avec les 40 ou 50 domestiques attachés aux personnes qui logeaient au château, ou dans les maisons de paysans arrangées pour les amis de la marquise. Cette prière était suivie d'une courte exhortation improvisée et fort bien faite. Les femmes âgées commencèrent par se rendre dans l'orangerie où avait lieu cet exercice du soir. Le chevalier y fit placer des fleurs charmantes et souvent renouvelées qu'on apportait de Paris. Bientôt, cette exhortation pieuse et sévère excita un intérêt général. Elle faisait bien contraste avec la manière frivole dont on employait le reste de la soirée. Le commandeur de Soubirane se déclara l'un des fauteurs les plus chauds de cette façon de ramener au bon principe tous les subalternes qui environnent nécessairement les gens considérables, et qui, ajoutait-il, ont montré tant de cruauté lors de la première apparition du régime de la terreur. C'était une des façons de parler du commandeur, qui allait annonçant partout qu'avant 10 ans, si l'on ne rétablissait l'ordre de Malte et les jésuites, on aurait un second Robespierre. Madame de Bonnivet n'avait pas manqué d'envoyer aux exercices pieux de son beau-fils ceux de ces gens dont elle était sûre. Elle fut bien étonnée d'apprendre qu'il distribuait de l'argent aux domestiques qui venaient lui confier en particulier qu'ils éprouvaient des besoins. La promotion dans l'ordre du Saint-Esprit paraissant différée, Madame de Bonnivet annonça que son architecte lui mandait de Poitou qu'il avait réussi à rassembler un nombre suffisant d'ouvriers. Elle se prépara au voyage, ainsi qu'Armance. Elle ne fut que médiocrement satisfaite du projet qu'annonça le chevalier de l'accompagner à Bonnivet. « Afin de revoir, disait-il, l'antique château, berceau de sa famille. » Le chevalier vit bien que sa présence contrariait sa belle-mère. Ce fut une raison de plus pour lui de l'accompagner dans ce voyage. Il espérait faire valoir auprès d'Armance le souvenir de la gloire de ses aïeux, car il avait remarqué qu'Armance était l'amie du vicomte de Malivert, et il voulait la lui enlever. Ses projets, médités de longue main, ne parurent qu'au moment de l'exécution. Aussi heureux avec les jeunes gens qu'auprès de la partie grave de la société, avant de quitter Andilly, le chevalier de Bonnivet avait eu l'art d'inspirer beaucoup de jalousie à Octave. Après le départ d'Armance, Octave alla jusqu'à penser que ce chevalier de Bonnivet, qui affichait pour elle une estime et un respect sans bornes, pourrait bien être cet époux mystérieux que lui avait trouvé un ancien ami de sa mère. En se quittant, Armance et son cousin étaient tous les deux tourmentés par de sombres soupçons. Armance sentait qu'elle laissait Octave auprès de Madame d'Aumale, mais elle ne crut pas pouvoir se permettre de lui écrire. Durant cette absence cruelle, Octave ne put qu'adresser à Madame de Bonnivet 2 ou 3 lettres fort jolies, mais d'un ton singulier. Si un homme étranger à cette société les avait vues, il eût pensé qu'Octave était amoureux fou de Madame de Bonnivet et n'osait lui avouer son amour. Pendant cette absence d'un mois, Mademoiselle de Zoïloff, dont le bon sens n'était plus troublé par le bonheur de vivre sous le même toit que son ami et de le voir 3 fois par jour, fit des réflexions sévères. Quoique sa conduite fût parfaitement convenable, elle ne put se dissimuler qu'il devait être facile de lire dans ses yeux quand elle regardait son cousin. Les hasards du voyage lui permirent de surprendre quelques mots des femmes de Madame de Bonnivet, qui lui firent verser bien des larmes. Ces femmes, comme tout ce qui approche les personnes considérables, ne voyant partout que l'intérêt d'argent, attribuaient à ce motif les apparences de passion qu'Armance se donnait, disait-elle, afin de devenir vicomtesse de Malivert, ce qui n'était pas mal pour une pauvre demoiselle de si petite naissance. L'idée d'être calomniée à ce point n'était jamais venue à Armance. « Je suis une fille perdue !» se dit-elle. « Mon sentiment pour Octave est plus que soupçonné, et ce n'est pas même le plus grand des torts que l'on me suppose. Je vis dans la même maison que lui, et il n'est pas possible qu'il m'épouse. » Dès cet instant, l'idée des calomnies dont elle était l'objet, qui survivaient à tous les raisonnements d'Armance, empoisonna sa vie. Il y eut des moments où elle crut avoir oublié jusqu'à son amour pour Octave. « Le mariage n'est pas fait pour ma position, je ne l'épouserai pas, » pensait-elle, « et il faut vivre beaucoup plus séparée de lui. S'il m'oublie, comme il est fort possible, j'irai finir mes jours dans un couvent. Ce sera un asile fort convenable et fort désiré pour le reste de mon existence. Je penserai à lui, j'apprendrai ses succès. Les souvenirs de la société offrent bien des existences semblables à celles que je mènerai. » Ses prévoyances étaient justes. Mais l'idée affreuse pour une jeune fille de pouvoir, avec quelque apparence de justice, être exposée à la calomnie de toute une maison, et encore de la maison où vivait Octave, jeta sur la vie d'Armance un sombre que rien ne put dissiper. Si elle entreprenait de se soustraire au souvenir de ses torts, car c'est le nom qu'elle donnait au genre de vie qu'elle avait suivi à Andilly, elle songeait à Madame d'Aumale et s'exagérait son amabilité sans qu'elle s'en aperçût. La société du chevalier de Bonnivet contribuait à lui faire voir encore plus irrémédiables qu'ils ne le sont en effet tous les maux que peut infliger la société quand on l'a choquée. Vers la fin de son séjour, dans l'antique château de Bonnivet, Armance passait toutes ses nuits à pleurer. Sa tante s'aperçut de cette tristesse et ne lui cacha pas toute l'humeur qu'elle en ressentait. Ce fut pendant son séjour en Poitou qu'Armance apprit un événement qui la toucha peu. Elle avait trois oncles au service de Russie. Ces jeunes gens périrent par le suicide durant les troubles de ce pays. On cacha leur mort. Mais enfin, après plusieurs mois, des lettres que la police ne parvint pas à supprimer furent remises à Mademoiselle de Zoïlov. Elle héritait une fortune agréable et qui pouvait la rendre un parti sortable pour Octave. Cet événement n'était pas fait pour diminuer l'humeur de Madame de Bonnivet, à laquelle Armance était nécessaire. Cette pauvre fille eut à essuyer un mot fort dur sur la préférence qu'elle accordait au salon de Madame de Malivert. Les grandes dames n'ont pas plus de méchanceté que le vulgaire des femmes riches, mais on acquiert auprès d'elles plus de susceptibilité, et l'on sent plus profondément et plus irrémédiablement, si j'ose parler ainsi, les maux désagréables. Armance croyait que rien ne manquait à son malheur, lorsque le chevalier de Bonnivet lui apprit, un matin, de cet air indifférent que l'on a pour une nouvelle déjà ancienne, qu'Octave était de nouveau assez mal et que sa blessure au bras s'était rouverte et donnait des inquiétudes. Depuis le départ d'Armance, Octave, qui était devenu difficile en bonheur, s'ennuyait souvent au salon. Il commit des imprudences à la chasse qui eurent des suites graves. Il avait eu l'idée de tirer de la main gauche un petit fusil fort léger. Il obtint des succès qui l'encouragèrent. Un jour, en poursuivant un perdreau blessé, il sauta un fossé et se heurta le bras contre un arbre, ce qui lui redonna la fièvre. Durant cette fièvre et l'état de malaise qui la suivit, le bonheur artificiel, pour ainsi dire, dont il avait joui sous les yeux d'Armance, sembla ne plus avoir que la consistance d'un rêve. Mademoiselle de Zoïlov revint enfin à Paris, et dès le lendemain, au château d'Andilly, les amants se revirent, mais ils étaient fort tristes, et cette tristesse était de la pire espèce, elle venait de doutes réciproques. Armance ne savait quel ton prendre avec son cousin, et ils ne se parlèrent presque pas le premier jour. Pendant que Madame de Bonnivet se donnait le plaisir de bâtir des tours gothiques en Poitou et de croire reconstruire le XIIe siècle, Madame d'Aumale avait fait une démarche décisive pour le grand succès qui venait enfin de couronner la vieille ambition de Monsieur de Bonnivet. Elle était l'héroïne d'Andilly. Pour ne pas se séparer d'une amie si utile pendant l'absence de la marquise, Madame de Bonnivet avait obtenu de la comtesse d'Aumale qu'elle occuperait un petit appartement dans les combles du château, tout près de la chambre d'Octave. Et Madame d'Aumale paraissait à tout le monde se souvenir beaucoup que c'était en quelque sorte pour elle qu'Octave avait reçu la blessure qui lui donnait la fièvre. Il était de bien mauvais goût de rappeler le souvenir de cette affaire qui avait coûté la vie au marquis de Crèveroche. Cependant, Madame d'Aumale ne pouvait s'empêcher d'y faire souvent allusion. C'est que l'usage du monde est à la délicatesse d'âme à peu près ce que la science est à l'esprit. Ce caractère tout en dehors, et pas du tout romanesque, était surtout frappé des choses réelles. À peine Armance eut-elle passé quelques heures à Andilly, que ce retour fréquent aux mêmes idées, dans une âme ordinairement si légère, la frappa vivement. Elle arrivait fort triste et fort découragée. Elle sentit, pour la seconde fois de sa vie, les atteintes d'un sentiment affreux, surtout quand il se rencontre dans le même cœur avec le sentiment exquis des convenances. Armance croyait avoir à cet égard de graves reproches à se faire. « Je dois veiller sur moi d'une manière sévère, » se disait-elle en détournant ses regards, qui s'arrêtaient sur Octave et les portant sur la brillante comtesse d'Aumale. Et chacune des grâces de la comtesse était pour Armance l'occasion d'un acte d'humilité excessive. Comment Octave ne lui donnerait-il pas la préférence? Se disait-elle. Moi-même, je sens qu'elle est adorable. Des sentiments aussi pénibles, réunis aux remords qu'Armance éprouvait, sans doute à tort, mais qui n'en étaient pas moins cruels, la rendirent fort peu aimable pour Octave. Le lendemain de son arrivée, elle ne descendit point au jardin de bonheur. C'était son habitude autrefois, et elle savait bien qu'Octave l'y attendait. Dans la journée, Octave lui adressa la parole deux ou trois fois. Une extrême timidité qui la saisit, en songeant que tout le monde les observait, la rendit immobile, et elle répondit à peine. Ce jour-là, au dîner, on parla de la fortune que le hasard venait d'envoyer à Armance, et elle remarqua que cette annonce était sans doute peu agréable à Octave, qui, sur cet événement, ne lui dit pas un mot. Ce mot, qui ne fut pas prononcé, si son cousin le lui eut adressé, n'eût pas fait naître dans son cœur un plaisir égal à la centième partie de la douleur que son silence lui causa. Octave n'écoutait pas. Il pensait à la singulière manière d'être qu'Armance avait envers lui depuis son retour. « Sans doute elle ne m'aime plus, » se disait-il. « Ou elle a pris des engagements définitifs avec le chevalier de Bonnivet. » L'indifférence d'Octave, à l'annonce de la fortune d'Armance, ouvrit à cette pauvre fille une source de malheur nouvelle et immense. Pour la première fois, elle pensa longuement et sérieusement à cet héritage qui lui arrivait du Nord, et qui, si Octave l'eût aimé, aurait fait d'elle un parti à peu près convenable pour lui. Octave, pour avoir un prétexte de lui écrire une page, lui avait envoyé en Poitou un petit poème sur la Grèce que venait de publier Lady Nelcombe, une jeune Anglaise amie de Madame de Bonnivet. Il n'y avait en France que deux exemplaires de ce poème dont on parlait beaucoup. Si l'exemplaire qui avait fait le voyage de Poitou eût paru dans le salon, 20 demandes indiscrètes se seraient avancées pour l'intercepter. Octave pria sa cousine de le faire porter chez lui. Armance, fort intimidée, ne se sentit pas le courage de donner une telle commission à sa femme de chambre. Elle monta au second étage du château et plaça ce petit poème anglais sur la poignée de la porte d'Octave, de manière à ce qu'il ne pût pas rentrer chez lui sans l'apercevoir. Octave était fort troublé. Il voyait qu'Armance, décidément, ne voulait pas lui parler. Ne se sentant nullement d'humeur à lui parler lui-même, il quitta le salon avant 10 heures. Il était agité de 1000 pensées sinistres. Madame d'Aumale se déplut bientôt au salon. On parlait politique et d'une façon dolente. Elle parla, elle, de mal de tête, et avant 10 heures et demie était rentrée dans son appartement. Probablement, Octave et Madame d'Aumale se promenaient ensemble. Cette idée, qui vint à tout le monde, fit pâlir Armance. Ensuite, elle se reprocha sa douleur, même comme une inconvenance qui la rendait moins digne de l'estime de son cousin. Le lendemain matin, de bonne heure, Armance se trouvait chez Madame de Malhiver, qui eut besoin d'un certain chapeau. Sa femme de chambre était allée au village. Armance court à la chambre où se trouvait le chapeau. Il fallait passer devant la chambre d'Octave. Elle resta comme frappée de la foudre en apercevant le petit poème anglais appuyé sur la poignée de la porte, ainsi qu'elle l'avait placé la veille au soir. Il était clair qu'Octave n'était pas rentré chez lui. Rien n'était plus vrai. Il était allé à la chasse, malgré le dernier accident de son bras, et afin de pouvoir se lever matin et n'être pas aperçu, il avait passé la nuit chez le garde-chasse. Il voulait rentrer au château à 11 heures, à la cloche du déjeuner, et éviter ainsi les reproches qu'on lui aurait adressés sur son imprudence. En rentrant chez Madame de Malhiver, Armance eut besoin de dire qu'elle se trouvait mal. De ce moment, elle ne fut plus la même. « Je porte une juste peine, se dit-elle, de la fausse position dans laquelle je me suis placée, et qui est si inconvenante pour une jeune personne. J'en suis venue à avoir des douleurs que je ne puis pas même m'avouer. » Lorsqu'elle revit Octave, Armance n'eut pas le courage de lui faire la moindre question sur le hasard qui l'avait empêché de voir le poème anglais. Elle eût cru manquer à tout ce qu'elle se devait. Ce troisième jour fut encore plus sombre que les précédents. Chapitre 26. Octave, consterné du changement qu'il voyait dans la manière d'être d'Armance, pensa que, même en sa qualité d'ami, il pouvait espérer qu'elle lui confierait le sujet de ses inquiétudes. Car elle était malheureuse, Octave ne pouvait en douter. Il était également évident pour lui que le chevalier de Bonnivet cherchait à leur ôter toutes les occasions de se dire un mot qu'auraient pu leur offrir les hasards de la promenade ou du salon. Les demi-mots qu'Octave hasardait quelquefois n'obtenaient pas de réponse. Pour qu'elle avouât sa douleur et renonçât au système de retenue parfaite qu'elle s'était imposé, il aurait fallu qu'Armance fût profondément émue. Octave était trop jeune et trop malheureux lui-même pour faire cette découverte et en profiter. Le commandeur de Soubirane était venu dîner à Andilly. Le soir, il y eut de l'orage, il plut beaucoup. On engagea le commandeur à rester, et on le logea dans une chambre voisine de celle qu'Octave venait de prendre au second étage du château. Ce soir-là, Octave avait entrepris de rendre à Armance un peu de gaieté. Il avait besoin de la voir sourire. Il eut vu dans ce sourire une image de l'ancienne intimité. Sa gaieté réussit fort mal et déplut fort à Armance. Comme elle ne répondait pas, il était obligé d'adresser ses discours à Madame d'Aumale, qui était présente et qui riait beaucoup, tandis qu'Armance gardait un silence morne. Octave se hasarda à lui faire une question qui semblait exiger une assez longue réponse. On répondit en deux mots fort secs. Désespéré de l'évidence de sa disgrâce, il quitta le salon à l'instant. En prenant l'air dans le jardin, il rencontra le garde-chasse, à qui il dit qu'il chasserait le lendemain de bonne heure. Madame d'Aumale, ne voyant au salon que des gens graves, dont la conversation lui était à charge, prit son parti et disparut. Ce second rendez-vous sembla trop clair à la malheureuse Armance. Indignée surtout de la duplicité d'Octave, qui, le soir même, en passant d'une pièce à l'autre, lui avait dit quelques mots fort tendres, elle monta chez elle pour prendre un volume qu'elle eut l'idée de placer, comme le petit poème anglais, sur la poignée de la porte d'Octave. En avançant dans le corridor qui conduisait à la chambre de son cousin, elle entendit du bruit chez lui. Sa porte était ouverte, et il arrangeait son fusil. Il y avait un très petit cabinet servant de dégagement à la chambre que l'on venait de préparer pour le commandeur, et la porte de ce cabinet donnait sur le corridor. Par malheur, cette porte était ouverte. Octave se rapprocha de la porte de sa chambre comme Armand s'avançait et fit un mouvement comme pour rentrer dans le passage. Il eût été affreux pour Armance d'être rencontrée par Octave en ce moment. Elle n'eut que le temps de se jeter dans cette porte ouverte qui se présentait à elle. « Dès qu'Octave sera sorti, se dit-elle, je placerai le livre. » Elle était si troublée par l'idée de la démarche qu'elle osait se permettre, et qui était une grande faute, qu'à peine faisait-elle des raisonnements suivis. Octave sortit en effet de sa chambre. Il passa devant la porte ouverte du petit cabinet où se trouvait Armance, mais il n'alla que jusqu'au bout du corridor. Il se mit à une fenêtre et siffla deux fois, comme pour donner un signal. Le garde-chasse, qui buvait à l'office, ne répondant pas, Octave resta à la fenêtre. Le silence qui régnait dans cette partie du château, la société se trouvant au salon du rez-de-chaussée et les domestiques dans l'étage souterrain, était si profond qu'Armance, dont le cœur battait avec force, n'osa faire aucun mouvement. D'ailleurs, la malheureuse Armance ne pouvait se dissimuler qu'Octave venait de donner un signal, et quelque peu féminin qu'il fût, il lui semblait que Madame d'Aumale pouvait fort bien l'avoir choisi. La fenêtre sur laquelle Octave s'appuyait était à la tête du petit escalier qui descendait au premier. Il était impossible de passer. Octave siffla une troisième fois, comme 11 heures venaient de sonner. Le garde-chasse, qui était à l'office avec les domestiques, ne répondit pas. Vers les 11h30, Octave rentra chez lui. Armance, qui de la vie ne s'était trouvée engagée dans une démarche dont elle eut à rougir, était si troublée qu'elle se trouvait hors d'état de marcher. Il était évident qu'Octave donnait un signal. On allait y répondre, ou bientôt il sortirait de nouveau. 11h15 sonnèrent à l'horloge du château. Ensuite, minuit. Cette heure indue augmenta les remords d'Armance. Elle se décida à quitter le cabinet qui lui avait servi de refuge, et comme minuit achevait de sonner, elle se mit en marche. Elle était tellement troublée qu'elle, qui avait ordinairement la démarche si légère, faisait assez de bruit. En s'avançant dans le corridor, elle aperçut dans l'ombre, à la fenêtre près de l'escalier, une figure qui se dessinait sur le ciel. Elle reconnut bientôt Monsieur de Soubirane. Il attendait son domestique qui lui apportait une bougie, et au moment où Armance, immobile, regardait la figure du commandeur qu'elle venait de reconnaître, la lumière de la bougie qui commençait à monter l'escalier parut au plafond du corridor. Avec du sang-froid, Armance aurait pu essayer de se cacher derrière une grande armoire qui était dans le coin du corridor, près de l'escalier. Peut-être elle eût été sauvée. Immobile de terreur, elle perdit 2 secondes, et le domestique, arrivant sur la dernière marche de l'escalier, la lumière de la bougie donna en plein sur elle, et le commandeur la reconnut. Un sourire affreux parut sur ses lèvres. Ses soupçons sur l'intelligence d'Armance et de son neveu était confirmé, mais en même temps il avait un moyen de les perdre à jamais. « Saint-Pierre, dit-il à son domestique, n'est-ce pas là mademoiselle Armance de Zoïlov ? « Oui, monsieur, dit le domestique tout interdit. « Octave va mieux, mademoiselle, j'espère, dit le commandeur d'un ton goguenard et grossier, et il passa.
Chapitre 27. Armance, au désespoir, se vit à la fois déshonorée à jamais et trahie par son amant. Elle s'assit un instant sur la dernière marche de l'escalier. Elle eut l'idée d'aller frapper à la porte de la femme de chambre de Madame de Malivert. Cette fille dormait et ne répondit pas. Madame de Malivert, craignant vaguement que son fils ne fût malade, prit sa veilleuse et vint elle-même ouvrir la porte de sa chambre. Elle fut effrayée de la figure d'Armance. « Qu'est-il arrivé à Octave ? » s'écria Madame de Malivert. « Rien, madame, rien au monde à Octave. Il se porte bien. Ce n'est que moi qui suis malheureuse et au désespoir de troubler votre sommeil. Mon projet était de parler à Madame Desrien et de ne me présenter chez vous que si l'on me disait que vous ne dormiez pas encore.
Ma petite, tu redoubles ma frayeur avec ton mot de madame. Il y a quelque chose d'extraordinaire. Octave est-il malade ?
Non, maman, dit Armand s'en fondant en larmes. Ce n'est que moi qui suis une fille perdue.
Madame de Malivert la fit entrer dans sa chambre, et elle raconta ce qui venait de lui arriver, sans rien dissimuler ni passer sous silence, pas même sa jalousie. Le cœur d'Armance, épuisé par tant de malheurs, n'avait plus la force de rien cacher. Madame de Malivert fut épouvantée.
Tout à coup, il ne faut pas perdre de temps, s'écria-t-elle. Donne-moi ma pelisse, ma pauvre fille, ma chère fille.
Et elle lui donna deux ou trois baisers avec toute la passion d'une mère.
Allume mon bougeoir, toi, reste ici.
Madame de Malivert courut chez son fils. La porte, heureusement, n'était pas fermée. Elle entre doucement, éveille Octave et lui raconte ce qui vient de se passer.
« Mon frère peut nous perdre, » dit Madame de Malivert. « Et suivant les apparences, il n'y manquera pas. Lève-toi, entre dans sa chambre. Dis-lui que j'ai eu une sorte de coup de sang chez toi. Trouves-tu quelque chose de mieux ?»«
Oui, maman. » « Dès demain, épousez Armance, si cet ange veut encore de moi. » Ce mot imprévu comble les vœux de Madame de Malivert. Elle embrasse son fils. Mais elle ajoute par réflexion,
« Ton oncle n'aime pas Armance. Il pourra parler, il promettra le silence, mais il a son domestique qui par son ordre parlera, et qu'il chassera ensuite pour avoir parlé. Je tiens à mon idée de coup de sang. » Cette comédie nous occupera désagréablement pendant 3 jours, mais l'honneur de ta femme est plus précieux que tout. Songe que tu dois te montrer très effrayé. Dès que tu auras averti le commandeur, descends chez moi, fais part de notre idée à Armance. Quand le commandeur l'a rencontré sur l'escalier, j'étais dans ta chambre et elle allait chercher Madame Desrien.
Octave courut avertir son oncle qu'il trouva fort éveillé. Le commandeur le regarda d'un air goguenard qui changea en colère toute son émotion. Octave quitta M. de Soubirane pour voler dans la chambre de sa mère.
« Est-il possible, dit-il à Armance, que vous n'aimiez pas le chevalier de Bonnivet et qu'il ne soit pas cet époux mystérieux dont vous m'aviez parlé autrefois ?»«
Le chevalier me fait horreur, mais vous, Octave, n'aimez-vous pas Madame d'Aumale ?»
« De ma vie, je ne la reverrai ni ne penserai à elle, » dit Octave. « Chère Armance, daignez dire que vous m'acceptez comme époux. Le ciel me punit de vous avoir fait un secret de mes parties de chasse. Je sifflais le garde-chasse qui ne m'a pas répondu. »
Les protestations d'Octave avaient toute la chaleur, mais non pas toute la délicatesse de la vraie passion. Armance croyait voir qu'il accomplissait un devoir en pensant à autre chose.
« Vous ne m'aimez pas dans ce moment, » lui dit-elle. « Je vous aime de toute la force de mon âme, mais je suis transportée de colère contre cet ignoble commandeur, homme vil, sur le silence duquel on ne peut pas compter. »
Octave renouvelait ses sollicitations.
« Est-il sûr que ce soit l'amour qui parle ?» lui dit Armance. « Peut-être n'est-ce que la générosité. Et aimez-vous, Madame d'Aumale ? Vous aboriez le mariage. Cette conversion subite m'est suspecte. »«
Au nom du ciel, chère Armance, ne perdons pas de temps. Tout le reste de ma vie te répondra de mon amour. »
Il était si persuadé de ce qu'il disait qu'il finit par persuader à son tour. Il remonta rapidement. Il trouva le commandeur auprès de sa mère, à qui sa joie du prochain mariage d'Octave donnait le courage de fort bien jouer la comédie. Toutefois, le commandeur ne semblait pas très persuadé de l'accident de sa sœur. Il se permit une plaisanterie sur les courses nocturnes d'Armance.
« Monsieur, j'ai encore un bon bras !» s'écria Octave en se levant tout à coup et se précipitant sur lui. « Si vous ajoutez un seul mot, je vous jette par la fenêtre que voilà. »
La fureur contenue d'Octave fit pâlir le commandeur. Il se souvint à propos des accès de folie de son neveu et vit qu'il était irrité au point de commettre un crime. Armance parut en ce moment, mais Octave ne trouva rien à lui dire. Il ne put même la regarder avec amour. Le calme l'avait mis hors de lui. Le commandeur, pour faire bonne contenance, ayant voulu dire quelques mots gais, Octave craignit qu'il ne blessât mademoiselle de Zoïlov. « Monsieur, lui dit-il en lui serrant fortement le bras, je vous engage à vous retirer à l'instant chez vous. » Le commandeur hésitant, Octave le saisit par le bras, l'entraîna dans sa chambre, l'y jeta, ferma la porte à clé et mit la clé dans sa poche. À son retour auprès des dames, il était furieux. « Si je ne tue cette âme mercenaire et basse, s'écriait-il comme se parlant à lui-même, il osera parler mal de ma femme, malheur à lui !»« Pour moi, j'aime monsieur de Soubirane, dit Armance effrayée et qui voyait la peine qu'Octave faisait à sa mère. « J'aime monsieur de Soubirane, et si vous continuez à être furieux, je pourrais penser que vous avez de l'humeur à cause d'un certain engagement un peu prompt que nous venons de lui annoncer.
« Vous ne le croyez pas, dit Octave en l'interrompant. J'en suis sûr, mais vous avez raison, comme toujours. À le bien prendre, je dois des actions de grâce à cette âme basse. »
Et peu à peu sa colère disparut. Madame de Malivert se fit transporter chez elle, jouant fort bien la comédie du coup de sang. Elle envoya chercher son médecin à Paris. Le reste de la nuit fut charmant. La gaieté de cette heureuse mère se communique à Octave et à son ami. Engagé par les paroles gaies de madame de Malivert, Armance, encore toute troublée et qui avait perdu tout empire sur elle-même, osait montrer à Octave combien il lui était cher. Elle avait le plaisir extrême de le voir jaloux du chevalier de Bonnivet. C'était ce sentiment fortuné qui expliquait d'une manière si heureuse pour elle son apparente indifférence des jours précédents. Mesdames d'Aumale et de Bonnivet, qu'on avait réveillées malgré les ordres de madame de Malivert, ne vinrent que fort tard, et tout le monde alla se coucher au petit jour.